de Hector Malot, Un beau frère. Chapitre 1.
Tiens, dit Pro.
Louis, du diable si je t'aurais reconnu. La cravate blanche, l'habit noir, vas-tu te marier? Tu ne sais donc pas que j'ai acheté l'étude de tête vide?
Alors tu serais mon patron si je n'avais lâché la basoche. Je regrette presque mon départ.
Regrettes-tu aussi l'héritage qui t'a donné la liberté?
Plus que tout, mon pauvre ami, car il n'en reste rien.
2 millions.
Ils ont duré 4 ans. Ça a été un rêve. Je me suis réveillée zouave pontificale, puis le zouave s'est fait volontaire au Mexique, heureux de trouver le pain quotidien dans la gamelle du régiment. Je serai probablement aujourd'hui brigadier ou maréchal des logis, englouti pour toujours dans la vie militaire, si un nouvel héritage ne m'avait remis à flot.
Combien de millions ?
300 000 francs seulement. Une vieille cousine dévote, qui, à son lit de mort, s'est souvenue du défenseur du Saint-Père. Il était temps.
C'était sur le boulevard que cette rencontre des deux anciens camarades avait lieu. On était en été, et après une journée brûlante, le soir était étouffant. Le gaz éclairait à peine la chaussée. Une épaisse poussière, restée en suspens, faisait une aréole rouge aux candélabres. Devant les cafés, autour des tables qui encombraient le trottoir, la foule cherchait à se rafraîchir en absorbant des flots de bière tiède et en grattant des glaces saupoudrées de macadam pulvérisé.
« Où vas-tu ? » demanda Dipro en passant son bras sous celui d'Éloui.
« À la librairie nouvelle, acheter un guide en Bretagne. »
« Tiens, précisément j'en sors. Seulement je n'ai pas acheté de guide en Bretagne ou ailleurs. Oh non !»«
Et qu'est-ce que tu achètes, toi ? Tu n'étais guère liseur de livres autrefois. »«
Voilà. »« Canaillette, comment aimer ces dames, les mémoires d'une biche apprivoisée. »«
Mais c'est très joli, ça. Le choix est vraiment heureux. »«
Il n'est pas de moi, mais du commis. » Un petit noir, très intelligent, je t'assure. En me voyant entrer dans sa librairie, il a compris qu'un homme comme moi n'achetait pas des livres pour les lire, mais pour les donner à une femme partant en voyage, cocotte ou grande dame, qui veut tout simplement quelque chose à faire trimballer par sa femme de chambre. Il m'a tout de suite offert cette collection.
Moi, est-ce que j'ai le temps de lire ?
Tu es donc bien occupé ?
Occupé. À midi, je me lève. En déjeunant, je jette un œil sur la Gazette des étrangers pour voir si j'y suis nommé et quels modèles d'élégance exotique se sont réveillés la veille. Après déjeuner, je fais un tour chez les gueuses. C'est l'heure de la bourse, on est tranquille près d'elle. Rentré chez moi, je m'habille et je vais au bois. Le tir au pigeon me garde jusqu'à l'heure du dîner. Après le dîner, le théâtre. J'ai vu 14 fois Barbe Bleue et 33 fois La Vie Parisienne. Le soir, on se retrouve. Quand je sors du club le matin, avec 4 ou 5 heures de baccarat dans la tête, je n'ai pas envie de lire. Si par hasard les séries ou les abattages de la nuit me dansent dans la cervelle, j'ai toujours des numéros du sport et du bulletin officiel des courses, en retard, qui m'endorme vite.
Quand je pense que ton tuteur t'a obligé à travailler chez un avoué tout en faisant ton droit, et cela pour t'empêcher de prendre des habitudes de dissipation.
Vraiment, c'était une heureuse idée. Les 10 Pro, depuis 300 ans, ont toujours été dans la magistrature. Je devais suivre la voie de mes pères, et je l'aurais suivi sans cet héritage inespéré. Avec mes relations de famille et mon nom, c'était fatal. Me vois-tu, procureur impérial, parlant au nom de la morale publique ?
Devant Sénéry, l'un de tes juges,
Cela ferait un joli tableau. »
Tous deux partirent d'un éclat de rire.
« À propos de Sénéry, tu sais qu'il n'est pas plus juge que je ne suis procureur impérial. »
« Oui, toi et lui, lui et toi, les deux font la paire.
Où est-il maintenant? Il y a longtemps que je ne l'ai vu. La dernière fois, il est venu me chercher à l'étude pour déjeuner, et j'ai tâché de lui mettre du plomb dans la tête.
Ah bien, oui.
Il a quitté Paris, enlevant une artiste, une musicienne, je ne sais trop quoi. Il s'est retiré avec elle auprès de Condé-le-Châtel, au camp Hérou, une terre qui lui vient de sa mère. Et là, il est devenu une sorte de gentleman farmer. Il cultive lui-même ses terres. Il élève des chevaux, il fait courir. Le père des Turquerets, qui vit toujours, le tourmente tant qu'il peut. Et comme si ce n'était pas assez, le pauvre garçon a contre lui son beau-frère, le baron Friardel, un gaillard plus retors et plus madré à lui seul que tous les avoués de la Normandie, qui certainement lui jouera un jour ou l'autre quelque mauvais tour. Il ne peut toujours pas lui enlever la fortune de sa mère, qui est maintenant parfaitement liquidée.
Tu ne connais pas le Friardel, mais il ne s'agit pas de lui, heureusement.
Puisque le hasard te livre à moi, je te garde et t'emmène souper à la Sainte-Barbe.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Dans quel monde vis-tu? Quels journaux lis-tu? La Sainte-Barbe dont je te parle n'a rien de commun avec la soute, qui, dans les navires de guerre, sert à emmagasiner les poudres et les projectiles explosibles. Tu peux te rassurer. C'est tout simplement un petit hôtel des Champs-Élysées que j'habite en commun avec deux de mes amis, que tu ne connais pas non plus, probablement, bien qu'ils aient un nom dans le monde. De Plouat et de Saint-Austrebert.
Un fils du général?
Précisément, le seul, l'unique fils du général comte de Saint-Austrebert.
Et c'est parce que cet illustre général de cour n'a jamais servi ni dans l'infanterie, ni dans la cavalerie, ni dans le génie, ni dans l'artillerie, mais seulement dans les antichambres, et surtout dans les chambres,
que votre hôtel s'appelle la Sainte-Barbe?
Non,
mais parce qu'il peut sauter d'un moment à l'autre, attendu que si notre position est très brillante en surface, au fond elle n'est pas trop solide.
C'est nous-mêmes qui l'avons baptisé ainsi.
On a trouvé le mot drôle, et dans le monde du sport et des cercles, la Sainte-Barbe est connue comme le jockey, les bébés ou le salon des courses.
Et tes trois derniers 100 000 francs?
Mon cher, de Saint-Austrebert n'a jamais eu ni pension ni patrimoine, et ses seules ressources reposent sur l'amitié qui unit son père à certains personnages. Cette amitié, il est vrai, peut, avec un peu d'habileté et d'intrigue, se monnayer, mais enfin ce n'est pas de l'argent sûr. Quant à De Plouat, il est de notoriété en Bretagne que ses sœurs n'ont pas pu se marier faute de dot, et qu'elles vivent auprès de leur mère dans un vieux pigeonnier délabré. Reste mon héritage de 300 000 francs, qui a été la plus grosse part dans notre association. Avec 100 000 francs que De Plouat a trouvés dans la succession de son père et qui lui ont été abandonnés en sa qualité de fils aîné. Avec 100 autres 1 000 francs que De Saint-Austrebert a pu se procurer. Si je te disais comment, tu serais bien étonné. Mais ce n'est pas le moment.
Ça nous a fait un capital de 500 000 francs.
Voilà toute notre fortune. Comprends-tu maintenant notre nom de Sainte-Barbe?
Il est de fait que 25 000 francs de rente pour trois, avec un hôtel aux Champs-Élysées...
Tu crois que nous avons placé en rente ou en valeur nos 500 000 francs? Et que 4 fois par an, l'un de nous s'en va au trésor toucher nos revenus comme un bon petit rentier?
Eh bien, la vérité est que les choses ne se sont point passées tout à fait ainsi.
Nous avons placé nos 500 000 francs, mais dans notre secrétaire, de manière à pouvoir payer tous les jours, avant midi, l'argent que nous avons perdu la veille. C'est-à-dire que de notre 500 000, nous avons fait une bourse de jeu.
Tu me diras que c'est peu.
Mais non. Si tu étais de notre monde, tu dirais que ce n'est rien. Seulement, ce qui n'est rien dans certaines mains est quelque chose dans d'autres. Or, les nôtres ne sont pas trop maladroites. On ne mange pas 2 millions, tu dois le comprendre, sans s'aiguiser les dents. On ne vit pas comme de Sainte Austreberthe a vécu depuis son enfance auprès d'un père comme le sien, dans un milieu comme celui qui l'environne, sans apprendre la vie. On ne naît pas d'un père breton et d'une mère normande, comme de Plois, sans recevoir d'eux une certaine dose de volonté et quelque peu de finesse. Eh bien, tout cela, nous l'avons mis dans notre association, et c'est un appoint qui compense la faiblesse de notre capital. Ainsi, nous allons. Où allez-vous?
Là n'est pas la question.
En fait, depuis 2 ans, nous avons été. Voilà ce qu'on peut dire. Et quant à l'avenir, tu sais, c'est un bourgeois. Nous autres, nous ne nous occupons pas de l'avenir. Et cela est si bien dans nos habitudes que nous vivons régulièrement au jour le jour. Tous les matins, en déjeunant, nous réglons la dépense qui a été faite dans la journée de la veille. Le cocher, le valet de chambre, le cuisinier reçoivent ce qu'ils ont payé pour nous. Notre loyer est versé d'avance, la Sainte Barbe peut sauter.
Et si elle saute?
Elle peut sauter, mais en réalité elle ne le doit pas. Au moins nous faisons tout pour que cette catastrophe n'arrive pas. C'est ainsi que nous nous sommes partagés le travail, choisissant d'après nos aptitudes. De Blois a pris le tir aux pigeons.
En quoi tirer sur des pigeons est-il un travail, je te prie?
As-tu vu des revues quelquefois? J'entends des revues au Palais Royal ou aux Variétés, dans lesquelles il y a un bon bourgeois qu'une fée promène en lui expliquant ce qui défile sous ses yeux. Eh bien, tu me fais absolument l'effet de ce bon bourgeois. Tu poses des questions, ma parole d'honneur, honteuses.
Dis tout de suite que je te fais pitié, mais sois indulgent pour un pauvre diable qui n'est pas né, qui a travaillé toute sa vie et qui n'a pas eu le temps de compléter son éducation.
C'est pour cela que de gré ou de force je t'emmène. Je ne veux pas qu'un garçon intelligent comme toi soit plus bête que moi. Nous aurons ce soir Naïma Effendi et probablement Altara, dont tous les journaux ont parlé dernièrement quand il a fait sauter les banques de Hombourg et de Wiesbaden. Ils voudront jouer l'un contre l'autre, cela t'amusera. Comme de Sainte Austreberthe va avoir un procès, je te présenterai à lui s'il n'est pas sous le suaire. Et Louis s'arrêta.
N'aie pas peur, il ne sera pas mort, et tu n'auras pas perdu ton client avant d'avoir travaillé pour lui.
De quel suaire parles-tu?
Nous partons demain, soir, pour des courses en province, où de Sainte Austreberthe doit monter. Moi, depuis 15 jours, je me suis entraînée. Levée à 5 heures, j'endosse 4 costumes de flanelle s'adaptant l'un sur l'autre, je pousse une course dans le bois, ça me donne une bonne suée. En rentrant, j'avale 3 ou 4 tasses de thé, et dans la journée, je ne mange que de la viande rôtie, sans pain, sans légumes. Avec ce régime, je me tiens en condition. Mais Sainte Austreberthe n'a pas la vocation. Il dédaigne ce régime, qui est le seul vrai, le seul bon, parce qu'il fortifie au lieu d'affaiblir. Et pour monter à 63 kg, il faut qu'il se fasse maigrir. Alors il est obligé de recourir au suaire, qui est un grand manteau, un peignoir en caoutchouc fermant hermétiquement au cou. Quand on l'a endossé, on s'assied sur une chaise, on allume 4 lampes qu'on pose aux 4 coins et l'on reste là.
Je comprends. On cuit à l'étuvée.
Comme le veau, ni plus ni moins. La chaleur ne tarde pas à vous faire fondre. C'est ainsi qu'on arrive à ne peser que ce qu'on veut. Quand on sort de là-dessous, il ne vous reste plus que les os, le sang et les muscles.
Mon cher, voilà qui me décide. Je t'accompagne. Votre monde m'attire.
Chapitre 2.
Les relations de Dipro et d'Éloui n'avaient pas commencé par la sympathie. L'un, fils de paysan, piocheur au collège, prix d'honneur au grand concours, était lourd de manière, sérieux d'esprit, discret par embarras, timide par dignité. L'autre, d'une vieille famille de magistrats anoblis sous Louis XIII, orgueilleux de son origine avec les bourgeois, honteux avec les fils des croisés, gonflé de sa fortune, était hautain, paresseux, d'une parfaite ignorance pour tout ce qui n'était pas cheval, monde et théâtre. En se trouvant en contact dans l'étude de tête vide où Éloui était maître clerc et où Dipro arrivait pour passer un an ou deux, contraint par son tuteur à ce travail qui l'humiliait, ils ne s'étaient point sentis attirés l'un vers l'autre, et très probablement ils en seraient restés à l'antipathie, si une intervention amicale ne les avait rapprochés et bientôt unis. Peu de jours après Dipro, était entré dans l'étude tête vide un autre clerc amateur nommé Sénéry des Turquerets. Pas plus que Dipro, celui-ci n'était destiné à devenir jamais avoué, et son père, le comte des Turquerets, le forçait à travailler dans une étude pour que, tout en suivant ses cours de droit le matin, il eût une occupation réglée qui le tint à la chaîne pendant les heures de l'après-midi. Pour le comte, c'était le meilleur préservatif contre les entraînements de la jeunesse, et comme il voyait les dispositions de son fils, il l'avait sévèrement recommandé à tête vide et à Éloui. C'était ce qu'on appelle en Normandie un foligat, gai, évaporé, causant sur tout sujet, se souciant de quoi que ce fût, exécrant toute occupation régulière, passionné, ardent au plaisir, avec cela sympathique au premier regard, et quand on le connaissait mieux, vous gagnant rapidement par sa générosité et sa droiture. Pour cette nature, qui contrastait si profondément avec la sienne, Éloui s'était tout de suite pris d'une vive amitié. Et comme Sénéry et Dipro vivaient en camarades, ils s'étaient ainsi trouvés rapprochés de celui-ci. Pendant 2 années, ils étaient restés ensemble. Puis un matin, Dipro était arrivé en bottes molles, la cravache à la main, tandis qu'un groom tenait son cheval à la porte de la rue. Il avait depuis quelques jours hérité d'un oncle qui lui laissait 2 millions. Et comme il allait dans 6 semaines atteindre sa majorité, il avait emprunté 30 000 francs pour vivre jusque-là. Lesté de ce viatique, il venait faire ses adieux à la boutique et inviter les clercs à un dîner qui restait célèbre dans l'histoire de l'étude. Chaque nouveau en reçoit le récit du dernier venu et le transmet à celui qui arrive après lui. Il se termine par cette phrase obligée : cette histoire, jeune homme, ne vous est pas racontée pour vous faire venir l'eau à la bouche et ainsi vous dégoûter du mouton aux pommes de terre ou du bœuf aux cornichons que notre patron, dans sa générosité, nous octroie tous les matins. Elle a un but plus élevé et sa morale la voici. Si jamais la fortune vous sourit, si vous héritez de 2 millions, et même si vous héritez de 4 ou de 6, n'oubliez pas que de par la tradition et les lois du savoir-vivre, notamment celles qui sont inscrites au chapitre Gula et Venter, vous êtes obligé de suivre l'exemple de l'excellentissime Dipro, bienfaiteur de cette étude. C'est la grâce que je vous souhaite. Le premier usage que Dipro avait fait de sa fortune avait été de mettre 50 000 francs à la disposition de son ami Sénéry, et celui-ci, rompant avec son père, avait à son tour abandonné l'étude tête vide pour se jeter à corps perdu dans le plaisir. À sa majorité, il devait avoir la fortune de sa mère, qui était considérable. Dipro lui permettait de l'escompter. Naturellement, Éloui n'avait pas entretenu des relations suivies avec ses anciens camarades. De temps en temps seulement, Sénéry venait le prendre le soir et l'emmenait dîner avec lui.
Ainsi, dit Éloi, marchant à côté de Dipro, c'est avec 300 000 francs que nous commençons tous deux la vie. Seulement, toi, tu as 300 000 francs de capital, et moi, j'ai 300 000 francs de dette. Mais je n'en suis pas trop inquiet. Avec du travail, on les paiera. Le tout est de pouvoir travailler. Or, pour le moment, c'est là le difficile. Depuis 12 ans, je n'ai pas quitté Paris. Et l'air infect de nos études, l'ordinaire de nos cuisines, ont détraqué ma machine. Il me faut un voyage à pied, pour marcher, me fatiguer, dérouiller mes muscles. Voilà pourquoi je quitte Paris pour quelques jours. Et voilà pourquoi, aussi, j'achète un guide en Bretagne. Moi, je ne vais pas à l'aventure. Avant de partir, il faut que je sache où j'irai, par où je passerai, ce que j'aurai à voir. Il tournait le coin de la place de la Madeleine et de la rue Royale, lorsqu'une jeune femme, qui sortait du restaurant au bras d'un petit homme sec, que son teint bistré, sa barbe noire et crépue, les pierreries qui brillaient à ses doigts, faisait reconnaître pour un natif de l'Amérique du Sud. Appela Dipro par son nom et vint à sa rencontre pendant que l'Américain s'arrêtait étonné. « Mon bon Dipro, dit-elle d'une voix câline, il faut que vous me rendiez le service de venir voir mes deux poneys. Je ne sais pas ce qu'ils ont, ils ne veulent pas manger. » Et ton vétérinaire, ma petite Flora? Ne m'en parlez pas, un âne qui soigne les chevaux. Je n'ai confiance qu'en vous. Tu tiens donc bien à tes poneys. C'te bêtise, quand je vais au bois avec mes pur-sang, je reviens quelquefois bredouille. Quand j'y vais avec mes poneys que je conduis moi-même, je ne manque jamais le soir de faire la connaissance de 5 ou 6 nobles étrangers qui veulent m'être présentés. Peux-tu dire de pareilles horreurs, petit monstre, et encore devant mon ami? Tu ne vois donc pas que c'est un homme sérieux? Ça, c'est drôle, la morale de Monsieur Dipro. Si c'était imprimé, ça se vendrait cher. Moi, je cherche mon dîner au bois. Vous, au cercle, vous attendez qu'un joueur veuille ponter. Ne faites donc pas le fier avec le pauvre monde. Bien rué, ma jolie pouliche. Pour la peine, j'irai voir demain tes malades. Pour vous remercier, je vous mettrai dans mes mémoires. » Joyeuse et souriante, elle retourna prendre le bras de son cavalier, qui, sous sa figure pâlie, laissait voir sa colère. Dipro riait aux éclats, et Louis était plus que sérieux. « Sais-tu à quoi je pense ? » dit-il tout à coup. « C'est qu'avec ton nom, la famille à laquelle tu appartiens, l'éducation que tu as reçue, tes idées, tes relations, tes attaches, l'évêque de ton département aurait pu facilement te marier à l'une des 10 ou 12 héritières qu'il élève pour les gens dévoués à la bonne cause. Bien née, riche, protégée par le clergé, à quoi n'aurais-tu pas pu prétendre? Cette vie-là en province eût bien valu celle que tu mènes à Paris. » Après avoir dépassé le rond-point, ils s'arrêtèrent devant un petit hôtel séparé de l'avenue par une cour sablée. Un valet de pied en grande livrée se tenait sous le vestibule. « Il n'y a encore personne de ces messieurs ?» demanda Dipro. « Non, monsieur, mais monsieur le baron Friardel est venu dans la journée. Il est revenu il y a un quart d'heure et il attend monsieur dans le fumoir. » « Parbleu ! » fit Dipro, se tournant vers Éloi. « C'est une chance que tu te rencontres avec lui. Je suis bien aise que tu vois quel fichu bonhomme Senri a pour beau-frère. » « Mais jamais je n'ai eu rien de particulier avec lui. Jamais je n'aurai rien. Tu ne seras pas indiscret. D'ailleurs, avec ces gens-là, délicatesse serait niaiserie. Entre, et tu vas voir. » Un petit homme belot de 38 à 40 ans vint à leur rencontre avec force protestation de joie et d'amitié pour Dipro, avec un salut caressant pour Éloi. L'échange de politesse fut fort long, car Friardel avait un tel plaisir à revoir son cher Dipro qu'il ne pouvait comprimer son expansion.
enfin il se décida à aborder le sujet de sa visite.
« C'est un service que je viens vous demander, » dit-il en prenant la main de Dipro qu'il tapota dans la sienne.
« Un vrai service. Voulez-vous monter Satan aux courses de Condé-le-Châtel ?»«
Mais, mon cher, je pars demain en province et je monte dans un steeple. »
« Eh bien, mes courses n'ont lieu que de lundi en 8. Vous avez tout le temps de revenir. D'ailleurs, on m'avait dit que vous deviez y assister avec Sainte Austreberte. »«
C'est-à-dire qu'il n'y a jusqu'à présent rien de décidé. » »«
Franchement, je suis heureux de ce que vous dites là, parce que si vous venez, ce sera pour moi et je vous devrai toute ma reconnaissance. Je veux que vous gagniez notre steeple. J'ai préparé Satan en vue de cette course. » Vous avez dû remarquer que je ne l'ai pas fait courir de l'année. Avec vous sur son dos, nous avons toute chance pour nous.
Combien porte-t-il?
Le top weight, 78 kilogrammes. Mais il a gagné le croidon avec plus de poids que cela. Vous savez comme il est solide sur les obstacles. Il n'a jamais hésité, jamais fait une faute. Si vous me promettez de le monter, il portera tous mes paris. Et ce sera une affaire sûre.
Pourquoi ne le donnez-vous pas à Forster? Il monte mieux que moi.
Ah, mon ami, vous m'obligez à vous faire rougir. Ce n'est pas vrai. Forster ne monte pas mieux que vous. Il a peut-être plus de patience que vous. Mais vous avez plus de solidité, plus d'intrépidité que lui. S'il est le meilleur gentleman rider de l'Angleterre, vous, vous êtes le meilleur de la France. Et voilà pourquoi je veux que vous montiez Satan. Il manque à votre réputation d'avoir gagné le steeple de Condé-le-Châtel. Je serai le plus heureux homme du monde de vous procurer cet honneur et cette joie.
Et Madame Forster, que dira-t-elle?
Méchante langue, Madame Forster ne dira rien, parce qu'elle ne doit rien dire. D'ailleurs, Forster montera pour moi ma jument lune de miel, qui courra non pour gagner, mais pour prendre une leçon.
Est-ce que Sénéry n'a pas un cheval dans la course?
Et Louis ne prenait guère d'intérêt à cette conversation, et il regardait Friardel plutôt qu'il ne l'écoutait. Tout d'abord, il lui avait paru assez insignifiant. Un gentillâtre campagnard, chétif et finaud, mais en parlant, ce gentillâtre, par ses gestes, ses regards, le ton de sa voix, ses manières doucereuses et câlines, accusaient une personnalité. On voyait qu'on avait affaire à un homme, et l'on se sentait d'autant plus mal à l'aise qu'il était impossible de deviner quel homme c'était. Bon, son accueil ouvert semblait l'indiquer. Méchant, cela pouvait bien être si l'on remarquait ses lèvres minces et ses yeux de pie. Dans tous les cas, un homme de volonté, actif et entreprenant. Pour cela, il n'y avait pas de doute possible. Au nom de Sénéry jeté dans l'entretien, Louis devint plus attentif.
« Oui, » poursuivit Friardel, « il fait partir un cheval, Nélombo, que vous avez peut-être vu en course plate, où il ne pouvait pas suivre le train. On dit qu'il saute bien, mais je ne lui crois aucune chance. Il n'a encore couru qu'une fois en Bretagne. Il a gagné, c'est vrai, mais il n'avait rien à battre. Ainsi, Satan est lune de miel, à moi, Nélombo à Sénéry, Queen of Trumps au colonel Gibson, Escamoteur à Chico Paluel, Ousmed au duc, voilà très probablement le champ, avec 4 ou 5 outsiders qui ne feront pas la moitié du parcours. Escamoteur et Housemaid sont bons, mais à 2 livres de poids, Satan doit les battre. Vous voyez que votre succès est certain. Allons, dites un mot.
Dipro se fit longtemps prier, demanda des explications, parla de poids léger, de top weight, de banquette, de rivière, de bullfinch, tout mot parfaitement incompréhensible pour Louis, et finalement donna sa parole d'assez mauvaise grâce. Friardel la reçut avec béatitude. Dans l'expression de son contentement,
il semblait qu'il allait embrasser Dipro. Néanmoins, il se contenta de lui tapoter la main avec frénésie.
« De cette victoire, dit-il en se levant, datera, je l'espère, notre amitié. J'ai pour vous la plus vive sympathie, pour votre mérite, pour votre caractère. Vous m'écrirez quand vous partirez de Paris. Je serai au-devant de vous à la gare. Bien entendu, tout le temps de votre séjour à Condé-le-Châtel, ma maison sera la vôtre.
Ah, là-dessus, je n'écoute rien. N'ayez pas trop peur de vous ennuyer. Je vous trouverai des distractions. »
Et après avoir salué et loué, il se dirigea vers la porte. Mais, prêt à la franchir, il s'arrêta.
« Ah, j'allais oublier, » dit-il en baissant la voix. « J'ai encore un service à vous demander. »
Pour ne pas être indiscret, Éloui se retourna et se mit à examiner d'un œil attentif l'ensemble du fumoir. C'était une assez grande pièce ovale, prenant jour par trois fenêtres garnies de vitraux armoriés. Les tentures de ces fenêtres et des portes répétaient les écussons des armoiries. Un tapis turc, posé sur un autre tapis, qui lui faisait doublure, enfoncé sous le pied comme l'herbe d'une prairie au mois de mai. Au mur, tendu d'un cuir brun estampé, on ne voyait ni tableau ni gravure. Sur leur nudité se détachait seulement une espèce de bibliothèque et deux petits dressoirs. Comme l'entretien se prolongeait à voix étouffée, Éloui, pour se donner une contenance, se dirigea vers cette bibliothèque, dans l'intention de prendre un livre où il put paraître s'enfoncer. Il n'en trouva point, car derrière les glaces de cette fausse bibliothèque, c'était une collection complète de tous les cigares qui se fabriquent dans le monde, qui étaient tassés en ordre et étiquetés. Sur l'un des dressoirs étaient rangés des pots en terre, en faïence, en porcelaine, en marbre, en cristal, plein des différents tabacs connus. Sur l'autre, des pipes étaient appliquées. Une tablette était réservée aux pipes en écume, une autre aux pipes en terre, une autre aux narguillés. Sur deux petites tables roulantes, placées à chaque angle de la cheminée, il n'y avait ni livres ni journaux. Mais sur l'une, un cabaret à liqueur. Sur l'autre, un immense pot à bière entouré de verres de Transylvanie. Éloui était en train de suivre les guirlandes bariolées que les chibouks enroulaient comme les anneaux d'un serpent autour des dressoirs, lorsqu'il s'entendit appeler par Dipro, et en même temps celui-ci se rapprocha, suivi de Friardel.
« Croirais-tu, s'écria-t-il, que Sennery a l'esprit dérangé? C'est au moins ce que monsieur le baron Friardel, son beau-frère, me dit.
« Ce que je crains, » interrompit celui-ci.
« C'est impossible, » fit Éloui.
« Vous le connaissez ?» demanda Friardel en l'examinant d'un coup d'œil perçant.
« J'ai été son camarade. »«
Eh bien, monsieur, nous qui sommes ses parents, ses meilleurs amis, nous disons comme vous qui le connaissez sans doute moins, c'est impossible. Et cependant, il y a dans ses habitudes, dans ses manières, dans son état général, quelque chose de trouble et d'incohérent qui nous inquiète. Voilà pourquoi je demandais à ce cher Dipro, dont je connais l'amitié pour mon pauvre beau-frère, s'il n'a point conservé des lettres de celui-ci. Vous pensez que nous n'ayons pas été sans consulter les médecins, mais il est fort difficile de se prononcer sur l'état d'un malade qu'on ne voit pas. Tous demandent quelque chose de plus précis, de plus positif que des paroles. Par exemple, une correspondance sur laquelle il serait possible de suivre pas à pas la marche du mal, s'il existe réellement.
« Mais enfin, en quoi consiste-t-il ce mal ? » demanda Éloui.
Friardel leva les yeux au ciel avec une expression qui disait clairement qu'on lui demandait là des explications trop cruelles pour sa sensibilité. Puis il se tourna vers Dipro comme pour le prier de lui épargner la douleur de ce récit qui, une première fois, l'avait brisé. « Il paraît, dit celui-ci, que Sénéry fait atteler des hommes à des chariots et leur donne des fardeaux à traîner en les conduisant le fouet à la main. « Mais tous les jours, interrompit Éloï, cela se fait ainsi dans les travaux de terrassement. Et j'ai vu dans des villes de province les pauvres des hospices attelés à des tombereaux. »
Friardelle, à cette objection, retrouva la parole.
« Assurément, fit-il avec tristesse, seulement ce qui caractérise la manie chez Sénéry, c'est que ses transports par des hommes n'ont pour lui ni but ni utilité, car après les hommes, il attelle des chevaux, après les chevaux, des bœufs, après les bœufs, des ânes. C'est tout simplement pour lui un plaisir, et un pareil plaisir, par malheur, semble bien indiquer un trouble dans les idées. » Au reste, si je vous ai parlé de cette manie plutôt que d'une autre, c'est qu'elle nous a été révélée par les hommes mêmes qui avaient traîné ces chariots, et par tous les gens du pays. Car pour nous, son père, sa sœur et moi, nous ne le voyons plus. Depuis qu'il a introduit chez lui une espèce de gourgandine, nous avons été forcés de renoncer à l'aller voir. Et elle a si bien fait qu'elle est arrivée à l'empêcher de venir chez nous.
« Quelle est donc au juste cette femme ?» demanda Dipro. «
Je l'ai vue une seule fois aux courses de Rennes, il y a un an. Elle est très jolie, et elle paraît tout à fait honnête. »«
Une fille qui courait le cachet, une maîtresse de piano qu'il a connue par hasard. Il l'adore. Elle a pris sur lui un pouvoir absolu, et elle a eu l'adresse d'en avoir un enfant.
Est-ce qu'il veut l'épouser ?» interrompit Éloï.
« Parce qu'on épouse ces femmes-là. D'ailleurs, quand même il le voudrait, Monsieur des Turquerets ne donnerait pas son consentement. »«
Sénéry est d'âge à s'en passer, il me semble. »
C'était Éloï qui avait lâché cette observation. Friardelle, qui l'avait longuement observé, sentit qu'il avait devant lui un auditeur hostile. Il voulut lui répondre de manière à lui clore la bouche. Cela paraissait facile, car l'avoué, qui n'était pas connu comme avoué, avait pris un air niais et vide.
« Dans notre monde, dit-il d'un ton rogue, l'âge ne fait rien au respect qu'on doit à ses pères. Sénéry n'aurait garde d'y manquer, en recourant, contre l'opposition de son vénéré père, aux subtilités de la loi. »
« Ah, bien, tant mieux, fit Éloï d'un ton bonhomme. Je suis heureux de voir que vous ne le croyez pas si fou que vous nous le disiez. Pauvre Sénéry, ça me désolait. »
Friardelle comprit qu'on lui avait tendu un piège. Il ne savait en présence de qui il se trouvait. Il ne voulut pas prolonger un entretien qui prenait une pareille tournure.
Ainsi c'est entendu, n'est-ce pas, mon cher Dipro, dit-il. Vous voudrez bien prendre la peine de chercher dans vos papiers. Et si vous trouvez des lettres de Sénéry qui ne renferment rien de trop intime, vous nous rendrez le service de nous les communiquer lors de votre voyage à Condé-le-Châtel. C'est peut-être sa santé que vous avez entre les mains.
Pauvre garçon, il nous inquiète bien. Son vieux père se désole. Ma femme en est toute nerveuse. Une si bonne nature, un cœur si droit. Cette maudite femme est cause de tout, j'en suis sûr. »
Sa voix était tremblante. Il se dirigea vers la porte. Dipro le retint.
« Restez donc avec nous ce soir, » dit-il. « Nous avons quelques amis. Naïma Effendi, Altara, le comte Labrif. On va tailler un bac. »«
C'est bien tentant, mais vous savez, je ne joue jamais. »«
Qu'à coup sûr, » acheva Dipro.
« Charmant, charmant. »
Et il se mit à rire en tapotant les mains de Dipro. Dans la cour, il riait encore.
« Eh bien !» firent les deux camarades lorsqu'ils se trouvèrent seuls.
« Comment ? » s'écria Dipro. « Tu ne me remercies pas de t'avoir fait connaître ce curieux personnage ?»«
L'affaire est claire. Ce rusé matois, affable et doux, prépare quelques machinations contre des Turquerets. »
Tu ne crois plus que la fortune de sa mère puisse le mettre à l'abri des mauvais tours de son beau-frère ?
Je crois qu'on veut le faire déshériter par son père. Très probablement lui nommer un conseil judiciaire. Peut-être même l'interdire.
Oh !
Mon cher, pardonne-moi ce que je vais te demander. Tu sais, je ne suis pas au courant des usages de votre monde. C'est un honneur qu'on te fait en te proposant de monter Satan, n'est-ce pas ?
Oui, et un avantage, puisque si j'arrive premier, je serai dans les paris du baron.
Eh bien, cette proposition n'avait d'autre but que de te disposer à livrer les lettres de Sénéry.
Parbleu, je le vois maintenant. C'est une malice un peu bête. Il est vrai que si tu n'avais pas été là, je m'y serais peut-être laissé prendre. Mais quel diable de parti pourrait-il tirer de ces lettres ?
On tire d'une lettre tout ce qu'on veut, avec un peu d'habileté et de fausseté, j'entends. Or, le baron Friardel me paraît posséder ces deux qualités à un très haut point.
Ainsi, cette histoire d'homme attelé à des chariots.
Crois-tu qu'elle est inventée ?
Non, elle doit être vraie. Au fond, je suis sûr qu'elle est réelle. Seulement, je parierai tout ce qu'on voudra que les choses ne se sont pas passées telles qu'il le dit, et par conséquent que les conclusions qu'il en tire ne sont pas celles qui en ressortent. Nous connaissons ce procédé, c'est l'ABC du métier.
Et cependant, si c'était vrai, si ce pauvre garçon avait l'esprit dérangé, il a toujours été fantasque. Tu sais combien il avait la tête chaude. Il n'y aurait rien d'étonnant à ce que, tourmenté, exaspéré par Friardel, il n'eût éclaté.
Condé-le-Châtel est sur la route de Bretagne, n'est-ce pas ?
Pas précisément, mais à peu près.
Eh bien, je verrai, Sénéry. Toi-même, tu vas aller à Condé-le-Châtel. Nous nous arrangerons pour nous y trouver ensemble et juger par nos yeux. Si tout ce que prétend le baron Friardel est vrai, il faudra bien abandonner Sénéry à son malheur. Si au contraire, comme j'en ai le pressentiment, il n'y a dans tout cela rien de sérieux, nous verrons à le défendre. Bien entendu, ne livre tes lettres à aucun prix.
Oh, sois tranquille, Friardel me paiera le piège qu'il a voulu me tendre. Je monterai Satan, parce qu'il faut tenir sa parole quand même, mais si je gagne, ce qui paraît probable, je ferai cadeau de mes paris à l'enfant de Sénéry. Vois-tu d'ici la figure de Friardel ? Allons, on pourra s'amuser un peu.
Depuis quelque temps déjà, on entendait un murmure confus de voix dans le salon sur lequel le fumoir ouvrait une de ses portes.
« Je crois que ton monde est arrivé, » dit Louis. « Je te laisse et vais me coucher pour me lever demain de bonne heure. »«
Et souper ?»«
Merci pour ce soir. Mon voyage à Condé-le-Châtel change toutes mes dispositions. Pour me rencontrer avec toi, je serai forcée de partir 2 jours plus tôt que je ne pensais, et il faut que je prépare mes affaires en conséquence. »
« Entre toujours 5 minutes, que je te mette en rapport avec Saint-Austrebert. Il doit maintenant être descendu. »
Le salon était faiblement éclairé par 3 ou 4 lampes qui concentraient la lumière sur une grande table ovale recouverte d'un tapis vert. Autour de cette table, 12 joueurs. Ils étaient tellement attentifs à la partie que personne ne leva les yeux sur les nouveaux venus.
« Fais-moi un peu connaître ton monde, » dit Louis, retenant Dipro dans l'ombre, « et mets-moi à l'abri des maladresses si je dois ouvrir la bouche. »«
Celui qui est en face de nous et qui tient les cartes est Saint-Austrebert. »
À ce moment, Saint-Austrebert abattit une carte. Il y eut une explosion de murmures parmi les joueurs.
« C'est trop fort !» s'écria une voix. « Voilà 1000 louis que je perds. « Je suis décavé !»
Au murmure succédèrent quelques rires.
« Celui qui vient de parler, » poursuivit Dipro à voix basse, « est Guéhenno, un breton, un charmant garçon. À droite de Saint-Austrebert est Naïmaï Vandy. »«
Ça ? ce gros homme clignotant. Il est horrible.
On a dit que la nature l'avait fait naître sanglier et que la civilisation l'avait fait devenir porc. Tu vois si c'est vrai. À gauche de Saint-Austreberte est le comte Labrif.
Est-ce qu'il a vraiment de la fortune?
Il dit lui-même que son père ne lui a laissé que 25 000 francs de rente et que depuis sa majorité, il n'a jamais dépensé moins de 400 000 francs par an.
Comment ça?
Ah, ah, voilà le grand blond, là, au bout. C'est Monsieur Noakes, un Américain.
Tu vas voir tout à l'heure son groom lui apporter un revolver. Est-ce pour se brûler la cervelle s'il perd ou défendre son gain s'il gagne?
On n'a jamais pu savoir. Mais c'est comme cela tous les soirs et dans toutes les maisons.
Pendant cette conversation, Saint-Austreberte avait perdu et les cartes étaient passées aux mains de Naïma Effendi.
« Je tiens tout ce qu'on voudra, » dit-il d'une voix grasse. « 5 000, 10 000. »«
Banco, » dit le comte Labrif.
Guéhenno s'était approché de Dipro et lui serrait la main.
« Je te croyais en Bretagne pour l'été, » dit celui-ci.
« Ah, mon pauvre enfant, est-ce qu'il y a moyen d'habiter la campagne maintenant? Figure-toi qu'une fille de basse-cour demande 100 francs par an, est-ce possible ?»
Arrivé le samedi, j'ai couru le dimanche chez le notaire lui dire de vendre tout de suite le château de mes ancêtres. Ma foi, tant pis.
Et Louis regarda avec une stupéfaction vraiment comique ce jeune gentilhomme qui venait de perdre 25 000 francs sur un coup de carte et qui vendait son domaine héréditaire pour ne pas donner 100 francs de gage à une servante. Mais il n'eut pas le temps de s'absorber dans ses réflexions. Son attention fut attirée par le jeu. Dipro et Guéhenno s'étaient approchés de la table. Naïma et Fendi avaient déjà passé 4 fois.
« 160 000 francs, » disait-il de sa même voix lente et épaisse.
Ce n'était plus un jeu, c'était un duel. Et pour la galerie, un spectacle. Tous les yeux étaient collés sur le drap vert. Naïma caressait les cartes du dos de sa main droite et leur donnait en riant des noms d'amitié. « Ah, ma belle! Ah, ma petite cocotte !»
Labrif, immobile sur sa chaise, ne disait rien.
Naïma tourna les cartes. Un seul mot sortit de toutes les poitrines.
« Gagné !»«
320 000 !» dit Naïma.
« Voulez-vous ?»«
Banco !» répéta Labrif. Il ne bougea pas sur sa chaise. Seulement, il passa ses doigts entre le col de sa chemise et son cou. Sa respiration était gênée. Naïma ne laissa pas l'anxiété s'exaspérer. Il n'avait pas tourné la carte décisive qu'un rire formidable s'échappa de sa large poitrine. Il se renversa sur sa chaise et l'on vit son gros ventre tressauter.
« C'est bien, » dit Labrif, pâle et froid.
« Demain avant midi, je ferai remettre chez vous 640 000 francs.
« Messieurs, » dit Naïma, « il y a 4 millions à la banque. »
Personne ne répondit. Et Louis paraissait plus ému que le comte Labrif. Il courut à Dipro.
« Adieu, » dit-il.
« Tu t'en vas? Je deviendrai fou à vous voir. »
Il se dirigea vers la porte, suivi de Dipro. À ce moment, Naïma éleva la voix.
« Si vous ne voulez plus du baccarat, je vous fais une chouette à l'écarté. »
Et Louis était déjà dans le vestibule. À la façon dont il endossa son pardessus, on eût pu croire qu'il avait perdu la tête. Tout à coup, il s'arrêta et, prenant Dipro par le bouton de son gilet.
« Dire, » fit-il d'une voix sourde, « que vous êtes là une douzaine de jeunes gens portant les plus grands noms de la France et que vos seules émotions, vos seules préoccupations, c'est de savoir s'il tournera pic ou trèfle, et cela tous les soirs ainsi. Comme ça doit rendre l'intelligence haute, le cœur fier. Quelle drôle de vie! Sais-tu à quoi je pensais durant cette partie? Sais-tu ce que je regrettais? C'est que ce ne fut pas toi qui perdis ces 640 000 francs, parce que, tout à fait ruiné, tu serais forcé de travailler pour vivre, et que tu redeviendrais homme. »
Dipro se mit à rire et haussa les épaules.
« Tu ris, malheureux. Adieu. »
Mais revenant sur ses pas.
« Si tu n'as pas perdu tout sens moral, souviens-toi que, de lundi en 8, nous devons nous trouver à Condé-le-Châtel.
Sois tranquille, le plaisir avant tout.
Mais au-dessus du plaisir, l'amitié et l'honneur. »
Chapitre 3. L'une des plus jolies petites villes de l'ouest de la France est certainement Condé-le-Châtel. Bâtie au milieu d'une vallée ouverte, elle est arrosée par l'eau Don, qui s'arrondit en cet endroit et lui fait une sorte de clôture liquide. Le peu de profondeur de la rivière et la paresse du courant n'ont pas permis l'établissement de moulins et de machines hydrauliques, si bien que l'eau s'écoule, limpide, se divisant çà et là pour entourer de petites îles plantées de saules et de peupliers. À l'aise dans cette presqu'île, la ville n'a pas dépassé son enceinte naturelle. Les maisons se sont arrêtées à la rivière, et de leurs terrasses qui trempent leurs pieds dans le courant, l'œil s'étend librement sur les prairies environnantes, toujours pleines de bœufs et de juments suités de leurs poulains. À cette heureuse position, Condé-le-Châtel doit une physionomie qu'on ne retrouve guère qu'à Nogent-le-Rotrou. C'est à la fois une ville et un village. Le caractère de ville, elle le doit à sa population, à ses magasins, à son tribunal, à sa sous-préfecture. Le caractère de village, elle le doit à ses jardins et à ses rues plantées de tilleuls et bordées de fossés d'eau courante. C'est vraiment le pays de la verdure. Et lorsque du haut des tours du vieux château on regarde autour de soi, on voit plus de feuilles que d'ardoises, plus de cimes d'arbres que de combles de maisons. Bâti en forme de trapèze sur un petit monticule, c'est ce château qui a donné son nom à la ville. Autrefois, c'était un apanage des Juvénieurs, ou branche cadette des comtes du Perche. Aujourd'hui, c'est le siège du tribunal, de la mairie et de tous les services publics et administratifs de l'arrondissement. Comme toujours, cette appropriation d'un monument construit au Moyen-Âge pour la guerre, aux usages de la vie moderne, s'est faite au détriment du caractère historique. Cependant, lorsque de loin, en arrivant par les routes de la vallée, on aperçoit ces tours qui dressent au-dessus des clochers de la ville leurs toits en poivrière, lorsqu'en approchant on distingue dans les détails sa masse imposante, on voit que, malgré les dévastations de la guerre et des âges, c'est encore une de nos belles ruines féodales. Il n'était pas encore 6 heures du matin lorsque Éloui, du haut de la diligence, aperçut les tours du vieux château, rougies par les rayons du soleil levant. Depuis plus de 2 heures, il était en voiture, car situé à égale distance des 2 grandes lignes de Normandie et de Bretagne, Condé-le-Châtel n'a point de chemin de fer, et probablement il n'en aura jamais. Les propriétaires n'en désirent pas. « Cela ferait augmenter les vivres, » disent-ils. Et comme les produits de leurs terres consistent en bœufs, gras et en chevaux, ils n'ont pas besoin de moyens de transport pour les expédier au loin. « C'est de la marchandise qui marche elle-même, » disent-ils encore. Son premier soin, en descendant dans la cour du bœuf couronné, fut de demander à quelle distance se trouvait le camp Héroux et quelle route y conduisait. La distance, 2 lieues. La route, prendre à droite en sortant de la ville, tourner à gauche, traverser la rivière, tourner à droite. Un chemin pour le diable.
Si difficile qu'il soit, interrompit-il, je ne veux pas de voiture. N'essayez donc pas de me faire croire que j'en ai besoin.
« Prendre à droite d'abord, dites-vous.
Merci. Après, je demanderai. J'ai une langue et des yeux. »
Et il s'engagea dans la rue qui lui avait été indiquée, au grand étonnement de l'aubergiste, interloqué d'avoir trouvé un monsieur aussi paysan que lui pour la fine Audrey. En 5 minutes, il fut hors la ville.
le brouillard montait doucement le long des peupliers, dont les cimes restaient encore encapuchonnées dans un nuage de fumée blanche. Les herbes de la prairie étaient ruisselantes de rosée, et quand les bœufs levaient la tête, l'eau, en deux filets de bave, coulait de leurs mufles noirs. Bientôt la route s'éloigna de la rivière, et au lieu de suivre les prairies, coupa à travers des terrains accidentés. Les champs étaient divisés par des berges de terre plantées de haies vives et d'arbres de hautes tiges, chênes, hêtres, châtaigniers, et cette confusion de feuillage, vue de loin, donnait au pays l'aspect d'une forêt bien aménagée. Élevé dans la Beauce, d'où il n'était sorti que pour venir à Paris, et Louis était habitué aux plaines plates, aux chemins nus, aux fermes enfermées entre quatre murailles blanches. Il n'avait aucune idée d'un pays si vert et si touffu. Au lieu de grandes plaines où l'œil se perd dans le vide jusqu'à la courbe de l'horizon, une succession de clos se répétant à l'infini. Au lieu d'une route monotone bordée d'un fossé, avec çà et là des chardons autour d'une touffe d'épines, un chemin s'allongeant entre deux talus couronnés de grands arbres qui font penser aux allées d'une haute futaie. Derrière ces talus, des bâtiments de ferme isolés aux quatre coins d'une cour. Pas de fumier devant la porte de la cuisine, pas de chemin boueux, mais des sentiers qui, partant de la maison d'habitation, conduisent aux granges, aux étables, aux poulaillers, en dessinant leurs traces sur l'herbe courte et serrée. Sous les pommiers trapus, des vaches et des poulains paissant en liberté. Aux abords des maisons, des troupes de poules et de dindes. Au milieu de ces cours, dont elles respectaient les clôtures, la route tournait et retournait si souvent en des dessins capricieux qu'il était difficile à un étranger de ne pas s'égarer. Les paroles de l'aubergiste du bœuf couronné étaient plus justes que l'avoué ne l'avait cru tout d'abord. Désorienté, perdu, il était obligé de se faire renseigner presque à chaque pas. Comme à la sortie d'un village, il interrogeait une femme qui, sur le seuil de sa porte, empâtait de soupe un gros enfant, celle-ci, de sa cuillère, lui indiqua un homme qui s'éloignait. « Voilà le piéton de la poste, qui justement va au camp Héroux. Vous n'avez qu'à le suivre. Le chemin n'est pas trop facile. Hé, dame, ma foi !» Et Louis, par prudence, n'avait pas voulu interroger l'aubergiste sur ses néris. Mais le facteur, qui tous les jours entrait dans la maison, qui en connaissait les habitudes, on pouvait le faire causer sans danger. C'était une bonne fortune que de le rencontrer. Il se hâta de le rejoindre, ce qui ne fut pas difficile, car celui-ci, marchant de ce pas long et lourd des gens fatigués, était en plus pesamment chargé. Sur une épaule, il portait un énorme bissac en toile blanche, plein à crever. Sur l'autre, une boîte à chapeau. Par-dessus la boîte, une lame de faux empaillée avec des rots. Enfin, sur son ventre, le sac aux dépêches. « Vous allez au camp Héroux ?» dit Louis. Comme j'y vais aussi et que je ne sais pas le chemin, si vous voulez, nous ferons route ensemble. » « Tout de même. » « Vous êtes bien chargé. Est-ce que tout cela, c'est des dépêches ? À 20 centimes les 10 grammes, c'est une bonne recette. » Le facteur voulut bien prendre cela pour une plaisanterie. « Si c'était seulement à 20 centimes le kilogramme, ce serait encore une fortune. » « Un métier de chien, allez, mon bon monsieur. 10 lieues tous les jours, la neige, la pluie, le verglas, le tonnerre, ça ne fait rien, il faut rentrer à l'heure au bureau. Tout ça pour 540 francs par an. On dit que l'administration des postes gagne de l'argent, je le crois. Mais pour moi, sans les commissions, il y a longtemps que je serais mort de faim. Une femme, monsieur, 4 enfants et 30 sous par jour. » « C'est pour le camp Héroux, toutes ces commissions ?»« Non, le pain de madame seulement, parce qu'avec ses petites dents blanches, elle ne peut pas manger le pain brillé. »« Ça se comprend, pas vrai ?»« Ah, Si tout le monde était comme elle, le métier serait bon.
Et monsieur des Turquerets ?
Monsieur Senry, il ne faut pas en parler, c'est connu, c'est même trop connu, vu qu'il y en a d'aucuns qui en abusent.
Monsieur Senry, ma vache est morte en vélan. Monsieur Senry, ma femme est malade. Monsieur Senry, j'ai du mal du sein.
Et lui, toujours la main à la poche. Quand il est revenu au pays, il m'a dit « Gars de blé, puisque vous passez tous les jours à 9 heures, vous déjeunerez avec les gens. » Et depuis ça, j'y déjeune. Voilà son caractère à monsieur Senry. Vous êtes de sa connaissance, peut-être bien.
Nous avons été camarades.
Pour lors, vous voyez si c'est vrai. Foi de bon Dieu, c'est un homme. Il y en a comme ça dans le pays qui crient, qui disent ceci, qui disent cela. C'est des bêtises.
Quoi donc ? L'interrogation partit trop tôt. En racontant son histoire, le facteur se fut peut-être laissé aller. On l'interrogeait, il se tint sur ses gardes. Et Louis vit que les paysans étaient partout les mêmes. N'obtenant rien de ce côté, il changea sa façon de procéder.
« Est-ce qu'il n'est pas malade depuis quelque temps ?»«
Malade, monsieur Senry ? Il a sombré d'une claque un bœuf de 900. »«
Malade ? Ah bien oui !» Il y a quelqu'un ici qui peut dire s'il est malade.
Vraiment.
S'il y a du monde qui est malheureux, il y en a aussi qui n'est pas raisonnable.
Ça, c'est vrai, n'est-ce pas?
Eh bien, il y a un gars d'ici qui est de ce monde-là. Toutes les nuits, il allait dans le bois de M. Senry. Et ce n'était pas pour sa provision, ce qui est bien permis, n'est-ce pas? C'était pour vendre les arbres qu'il abattait. Les frênes à un charron, les chênes à un charpentier. C'était si bien connu que M. Senry lui avait dit lui-même, parlant à sa personne, qu'il fallait que ça finisse.
Ah bien oui, mon gars y retournait toujours, parce qu'il savait bien que M. Senry ne voulait pas lui faire faire un procès par ses gardes, vu que le procès, ce n'est pas dans ses idées. À la fin des fins, voilà qu'un matin, avant le soleil levé, Monsieur Senry se trouve dans le bois en face de Tournebu qui était en train d'abattre un frêne.
Ah, bon Dieu, le nom est lâché. Je ne voulais pas le nommer, mais vous n'êtes pas homme à l'inquiéter, ben vrai, puisque vous êtes l'ami de monsieur Senry.
Il y a longtemps que je t'ai prévenu, dit monsieur Senry. Tu ne veux pas m'écouter, il faut que je te règle ton compte. Je pourrais te faire envoyer en prison, mais j'ai pitié de ta femme. « Jette ta hache au loin. »«
Vous voulez me tuer ?» dit Tournebu.
« Non, » répond M. Senry en jetant son bâton, « mais t'administrer une correction. »
Là-dessus, Tournebu se met à rire en se tenant les côtes parce qu'il faut que vous sachiez qu'il est fort comme 4 hommes et qu'il ne connaît pas son maître. Mais il ne rit pas longtemps. M. Senry s'avance et lui applique un coup de poing sur l'œil droit. Tournebu étend les bras. Avant d'avoir pu les refermer, il reçoit un autre coup de poing sur l'œil gauche. Naturellement, ça l'étourdit et ça l'aveugle. Avant qu'il soit remis, un coup droit dans la poitrine l'envoie tomber à 4 pas sur le dos. C'était de la boxe, vous comprenez bien. 3 coups, il n'en a pas reçu un de plus. J'ai bu une moque hier avec lui. Il dit lui-même qu'il en a eu assez et que jamais il ne retournera dans les bois de M. Senry. Père François, j'ai là une lettre pour vous. C'est 6 sous. Par-dessus la haie, il tendit la lettre à un vieux paysan qui, dans l'herbe mouillée, ramassait des pommes vertes.
« Une lettre pour moi ? » dit celui-ci en relevant la tête. « D'où ça peut-il venir ? » ?»«
D'Alger, c'est bien sûr de votre garçon. »
« Montre ça, vite !»
Le facteur, sans lâcher la lettre, allongea le bras de telle sorte que le père François l'eut presque sur le nez. Celui-ci la regarda, la flaira, mais sans la prendre.
« C'est 6 sous !» répéta le facteur.
« Oui, c'est bien ça, c'est l'écriture de mon garçon. Dis donc, gars de blé, puisqu'il écrit, c'est qu'il est vivant, pas vrai ? Quand je lirai sa lettre, je n'en saurai pas plus long. » « Garde-la, je garde mes 6 sous. » Ils quittèrent bientôt la grande route pour prendre un chemin de traverse qui, par une pente douce, s'élevait dans un bois de hautes futaies. Le sol était devenu sablonneux. Ça et là, quelques roches de porphyre et de granit se dressaient entre les arbres.
« Nous serons bientôt au château, » dit Gadeblé.
Mais ils n'allèrent point jusque-là. Sous bois, on entendit un bruit confus, un murmure de voix, des craquements, le galop de plusieurs chevaux.
« C'est M'sieu Sénéry qui fait travailler ses chevaux dans l'allée de la fuie, » dit Gadeblé.
« Lui-même ?
Ah, bien sûr, comme tous les matins. Si vous voulez couper par ce sentier, vous le trouverez avant 10 minutes. »
Les doutes d'Éloui sur la sincérité de Friardel s'accentuaient de plus en plus. Était-il possible que ce facteur, qui vivait dans le pays, qui mangeait tous les jours avec les domestiques du camp Hérou, ne sût rien de ce dérangement d'esprit, qui, au dire de Friardel, était une notoriété publique? En arrivant à une large et longue allée, dont le sol était émietté et pulvérisé comme le sable d'un jardin, il aperçut à une petite distance un groupe de chevaux encore haletant. Il était évident qu'ils venaient de galoper. Autour d'eux, des gens d'écurie s'occupaient à gratter la sueur sur leur corps et à leur rafraîchir la bouche avec une éponge mouillée. Dans un grand jeune homme blond, qui, à quelques pas du groupe, dirigeait ce travail et donnait des ordres en anglais, Éloui reconnut Sénéry. Mais celui-ci ne reconnut pas tout de suite son ancien camarade, et, marchant vers lui, le fouet à la main, il lui cria d'un ton brusque « Eh, monsieur, que venez-vous faire ici? On ne passe pas dans cette route !» Sans répondre, Éloui attacha les yeux sur lui. Qu'il ne le reconnut pas, c'était possible, mais pourquoi cet emportement? Comme il se posait cette question avec inquiétude, Sénéry ouvrit les bras et poussa un formidable éclat de rire.
« Éloui, ah, par exemple, à mesure que je te reconnaissais, je me demandais si je ne déménageais pas. Comment diable es-tu ici ?»«
Parce que j'ai rencontré Dipro l'autre jour, qui m'a dit que tu habitais aux environs de Condé-le-Châtel. Comme je partais pour la Bretagne, j'ai fait un petit détour pour te voir en passant. »
« Ah, mon pauvre vieux, quel plaisir tu me fais! C'est Cyprienne qui va être contente, et moi qui croyais que tu espionnais le travail de mes chevaux. »«
Qui est Cyprienne ?»«
Ma femme. »«
Tu es mariée ?»«
À peu près, mais ça, c'est une histoire, mon histoire. En allant à la maison, je vais te la conter. »
Et se tournant vers les gens d'écurie, « Tom, dit-il en anglais, vous rentrerez les chevaux. » Qu'on mène Nelombo en main.